France Inter.
France Inter, il est 11h04. Voici tout de suite François-Régis Gaudry pour On va déguster. Bonjour à vous.
Bonjour Léonie Cornet, j'espère que vous aimez les cookies.
Ah, j'adore ça.
Le lavener.
J'adore.
Restez avec nous, si vous êtes gourmande, vous allez vous régaler avec le duo de Moconuts.
Waouh.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon. Mmh.
Welcome to Moconuts Paris.
Moi, je suis d'origine libanaise. Ma femme est d'origine japonaise.
Il y a des labneh avec brocolini grillé, des légumes de ligne, avec coco de pimpole et sauce pilpil.
On cherche surtout à s'influencer.
Alors, on dessert aujourd'hui tarte figue avec mascarpone citron macéré, avec un peu de physalis. Sinon, on en a des cookie plates. On y va.
Le cookie à la taïna qu'on prépare ici, c'est un peu le très emblématique de ce qu'on est, de ce qu'on représente nous en tant que couple, parce que c'est un vrai mariage entre la culture japonaise et la culture libanaise.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. C'est l'histoire d'un petit coffee shop de quartier, ouvert en 2015 dans le 11e arrondissement. Au moment de fêter en 2025 son 10e anniversaire, ce coffee shop est devenu rien de moins qu'un restaurant culte. Ça s'appelle Moconuts. Moco quoi ? Moconuts, si vous ne connaissez pas ce lieu, amis auditeurs et auditrices, pas de quoi culpabiliser, l'endroit ne propose que 22 couverts, que s'arrachent des gourmets très prévoyants venus des États-Unis, du Japon et de partout dans le monde. Alors là, vous vous dites qu'on a affaire à une table d'initiés qui cultive un entre-soi mondain et une cuisine branchée. Rien de tout ça, Moconuts, ce sont des prix de bistrot, un accueil adorable et surtout une cuisine et une pâtisserie comme on en goûte rarement. Mais quelle est donc la recette du succès de Moconuts ? C'est surtout comment cuisiner et pâtisser à la manière de Moconuts ? On va tout savoir grâce à Moku Hirayama et Omar Koretem. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Merci de nous faire la joie de venir en direct autour de notre studio. On est très heureux de vous recevoir et je crois que je ne suis pas le seul. Il n'y a que des fans autour de ce plateau. Vous êtes en couple à la ville ? Et en cuisine. Vous avez donc fondé Moconuts il y a 10 ans. L'adresse, vous nous la rappelez, l'adresse exacte dans le 11e arrondissement ?
Oui, non, 5 rue Saint-Bernard dans le 11e.
C'est ça. Et vous avez, à l'occasion du 10e anniversaire de votre restaurant, publié un livre que tout le monde s'arrache, un livre de recettes. Aux éditions Feuilleton, nous vous révélez bon nombre de vos secrets culinaires. Je l'ai là. Ce livre arbore un très joli dessin de pommes et de poissons sur fond. Bleu céladon, ce bleu céladon qui fait allusion à Omar ?
À la façade du restaurant.
Et ouais, c'est l'exact pantone.
C'est exactement la même couleur.
On pourrait parler d'un bleu céladon, c'est ça ? Ou vous avez une autre définition ?
Non, bleu céladon, ça me convient.
Ça vous va ? Et ce livre, ce sont des recettes, mais c'est aussi le récit de votre étonnante aventure, on va le voir. Signalons que vous avez également ouvert juste à côté de Moconuts Mokoshaya, c'est bien ça, hein ?
Ouais, exactement.
11 rue Saint-Bernard.
Oui.
Et Mokoloko, ça existe toujours ?
Ça existe toujours, ouais.
C'est un lieu de résidence gastronomique ?
Exactement.
Parfait. Avec nous également tout au long de l'émission, elle salive, elle est heureuse. On y est allé ensemble récemment, il y a quelques jours, chez Moconuts.
Chanceuse que je suis.
C'est Elvira Masson.
Bonjour à tous, Elvira. C'est toutes. Moi, je vais vous raconter une histoire de transmission de recettes qui m'a beaucoup émue.
Oui, notre chroniqueuse Justine Knapp est aussi avec nous. Bonjour Justine.
Bonjour. Et donc moi, aujourd'hui, je parlerai de vin auquel j'aime revenir d'année en année.
Ouais, avec une jolie bouteille qui a mis son manteau d'hiver.
C'est pour la tenir au frais.
C'est pour la tenir au frais, très bien.
Pas pour nous piéger.
Avec nous également, notre mangeur masqué qu'on adore, le plus célèbre de France, qui va faire retentir son... C'est François Simon. Bonjour,
bonjour
François. Qu'est-ce qui fait ding aujourd'hui ?
Ce qui fait ding, ça va être de l'air. J'espère que vous n'allez pas en manquer. Enfin, logiquement, parce que je réfléchis à quelque chose.
On a hâte. On a rendez-vous avec vous dans le courant de cette émission, cher François. Réagissez à la maison sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com et retrouver tous nos contenus, recettes, adresses, podcasts sur franceinter.fr à la page. On va déguster.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Juste avant de vous raconter le fabuleux destin et les secrets de Moconuts, je vous sers une petite surprise liquide que vous avez sous vos micros. On peut raisonnablement dire que c'est une boisson chaude. J'espère qu'elle est assez infusée.
Je ne sais pas quel pantone c'est.
C'est léger,
pas bleu, c'est
l'infusion.
C'est quoi, léger, c'est le résultat d'un test de grossesse, non?
Vous évoquez François-Simon une couleur bizarre.
Oui, on a une couleur bleutée. Franchement bleue. Ouais.
Alors, je vous annonce d'emblée que c'est naturel. Est-ce que vous percevez un goût, une saveur, une plante, sachant que c'est un mélange qui comporte plusieurs plantes.
La couleur révèle un petit peu, peut-être, mais quand je pense au bleu, je pense à la myrte.
Ouais.
Mais il y a de goût plutôt un thym.
Un petit...
Intéressant. Il y a effectivement des notes un peu camfrées, comme ça, ouais. Vous aimez ou pas?
C'est très agréable.
Ouais.
Oui, c'est un peu camfré, c'est un peu menthe, un peu origan.
Là, vous avez dit un mot intéressant. Ouais. Il y a effectivement de la menthe. Vous chauffez ou vous refroidissez avec la menthe, Elvira, mais il y a effectivement de la menthe. Ouais, c'est bien.
C'est délicat. Donc on serait sur un mélange de plusieurs plantes, dont le thym, parce que c'est vrai que ça ressort quand même pas mal. Quand c'est bleu, séché comme ce ne serait pas de la mauve.
Bravo, mauve, boum. La mauve a des vertus.
Ah oui.
La mauve a des vertus adoucissantes, ça va vous faire beaucoup de bien, François-Simon.
C'est bien ça.
Délicieux.
Donc combien de plantes il faut deviner?
Il y en a 5.
Ah oui,
mais
non,
c'est
mauve.
Des mauve.
Menthe.
Camomille.
Menthe. Non, pas camomille.
Tilleul.
Non. Alors vous allez voir, hein. Bon, je vais vous donner la solution des jeux parce qu'il s'agit d'un hermier assez complexe. Vous diriez que c'est cette tisane, puisqu'il s'agit d'une infusion, une tisane, a quelle vertu?
Digestive.
Ouais, absolument. Elle
j'aime beaucoup cela.
Digestive. C'est une tisane, fruit d'une très jolie histoire. Écoutez plutôt.
Alors, nous avons un mélange qui s'appelle Douceur des cimes, qui est composé de menthe bergamote, de thym citron, d'agastache anisée, de mauve et de monarde. On a des très bons retours, notamment avec la couleur que la mauve apporte dans la tisane, qui donne un bleu assez extraordinaire.
À quelle occasion on boit cette infusion?
Eh ben, c'est un mélange plutôt digestif, donc on peut le boire à la fin d'un repas, c'est complètement approprié. Alors, je suis Baptiste Potel, on est dans la vallée du Giffre, face à la chaîne du Mont-Blanc, dans une vieille ferme qui appartenait aux ancêtres de ma femme. Et on est à 750 mètres d'altitude. Alors, je produis des plantes aromatiques et médicinales sur 3000 mètres carrés. On a une vingtaine de variétés de plantes différentes qu'on cultive en agriculture biologique et qu'on récolte manuellement, très très peu de mécanisation, et qu'on sèche dans des grands séchoirs qu'on a dans notre grange. Et ensuite, on produit des tisanes soit en simple, donc avec une seule plante dans les sachets, soit on fait des mélanges comme la douceur des cimes, par exemple.
Je l'ai, le sachet douceur des cimes, les tisanes bio de la ferme de Vert-Château. Nous sommes dans la vallée du Giffre, en Haute-Savoie, chez Baptiste Potel et sa compagne Séverine Mulatier, qui ont développé une très belle ligne d'infusion. Je vous les recommande chaleureusement à l'heure où l'automne nous impose ses premiers frimas. Voilà, on vous a mis toutes les infos et les points de vente sur la page de l'émission. Dans un instant, le phénomène Moconuts, derrière la vitre de la régie pour mitonner cette émission en direct. Laurent Thomas, Louis Moreau, Fabrice Ribaud, on écoute Tamat de Nusantarabit. C'est un sextet néerlandais aux racines indonésiennes. On s'attable chez Moconuts sur France Inter.
France Inter, on va déguster.
Le mardi 15 décembre 2015, à 8h45, Omar et moi ouvrions les portes de Moconuts, un café-boulangerie situé dans une rue calme et résidentielle du très animé 11e arrondissement de Paris. Évidemment, personne ne faisait la queue dehors, et d'ailleurs, aucun client ne s'est présenté dans la demi-heure qui a suivi l'ouverture. Et puis un homme est entré. Il voulait savoir ce que nous proposions pour le petit déjeuner. Toast de l'amener, accompagné d'un pain au levain fait maison, granola aux fruits de saison, cookies et gâteaux. Il m'a interrompu au beau milieu de mon envolée et m'a demandé si nous avions une formule petit déjeuner. Étonné, j'ai été bien obligé de lui répondre que non. Il a fini par commander un granola et un verre de jus d'orange. Si le jus a disparu en quelques gorgées, l'homme a mangé son granola sans se presser, le tout dans le silence absolu de notre petite salle. Il a payé et il est parti. 10 ans se sont écoulés depuis cette première rencontre avec Pablo, notre fameux client numéro 1. Il est revenu à la fin de la semaine, puis la semaine suivante et celle d'après. Aujourd'hui encore, Pablo est un habitué du matin. Depuis 10 ans, il a changé de travail à maintes reprises. Sa famille compte désormais un deuxième enfant et un chien. S'il revient chez nous, nous dit-il, c'est certes pour le granola et les cookies, il raffole de nos choco-chunk cookies, mais ce qui lui plaît surtout chez nous, c'est l'accueil, les rapports humains. Il aime passer nous voir, discuter avec nous, et c'est ça, l'esprit Moconuts. C'est comme ça que vous décrivez Moco, l'esprit Moconuts, dans l'intro de votre livre chez Faïdon. C'est donc d'abord, avant même la cuisine, c'est d'abord l'accueil, les liens humains. C'est un peu de la fausse modestie, non?
C'est vrai. Mais en fait, ce que c'est vraiment important, et c'est pas on a pas planifié comme ça, mais en accueillant des gens, ce qui ne plaît plus et ce qui est plus important, c'est vraiment établir un lien avec chaque client. Et au moins, c'est une petite salle, hein, on parle avec tout le monde. Et pour nous, c'est pour garder ce petit communauté qui nous continue à faire cuisiner, qui nous fait continuer à créer des nouvelles recettes et qui nous continue à faire ce qu'on fait tous les jours. Donc c'est très très important et ça reste un vrai cœur de ce qu'on fait tous les jours.
Est-ce que c'est le fait que architecturalement il n'y ait pas de frontière entre la cuisine où vous officiez au quotidien et la petite salle de ce coffee shop qui crée justement un rapport immédiat, direct, très convivial avec les clients qui entrent chez Moconuts?
Je pense que c'est ce qui frappe les clients qui viennent chez Moconuts la première fois, c'est qu'ils ont vraiment l'impression en fait de rentrer chez quelqu'un, pas dans un restaurant, mais dans la maison, dans la salle à manger, dans la cuisine de quelqu'un. La cuisine est très proche, hein. Il y a vraiment juste un petit comptoir qui nous sépare. Donc on nous regarde cuisiner, certains clients viennent en passant pour aller aux toilettes, nous font un petit clin d'œil, nous posent une petite question ou un petit, comment on dit, thumbs up pour nous dire que c'était très très bon. C'est vrai qu'il y a quand même un niveau d'intimité qu'on ne trouve pas dans d'autres restaurants.
C'est vrai, et c'est vrai que Moconuts, alors le paradoxe, hein, c'est que c'est à la fois de nombreux habitués, on évoque Pablo, le client numéro 1, qui continue à venir 10 ans après, et en même temps Moconuts, il faut bien le dire, on l'a constaté Elvira il y a quelques jours quand on a eu la chance de s'attabler, je crois que c'était lundi dernier, il y a
une petite semaine,
chez Moconuts, c'est aussi un lieu de pèlerinage où l'on vient depuis le monde entier. Il y a des gourmets de New York qui sont de passage à Paris et qui veulent absolument vivre l'expérience Moconuts.
Ouais, pour l'instant, on a beaucoup, beaucoup de clientèle internationale. Ça change un peu d'ambiance là, depuis qu'on est ouvert. Je pense à pas mal de presse hein, aussi. Ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas des grosses presses hein, depuis 2019 qu'on a eu des articles au New York Times. Après, tout le monde m'a dit que mon cousin m'a dit, ma père m'a dit, mon voisin m'a dit, et il me semble qu'il y a toujours quelqu'un qui nous connecte, et c'est ça qui nous plaît. Et il y a aussi des habitués qui viennent chaque 2 ans, chaque 6 ans, chaque 6 mois, et j'aime bien cette régularité aussi. Donc, c'est vrai que la clientèle a changé la dernière 10 ans.
Et les habitués qui viennent de l'étranger, donc c'est ça qui nous surprend, et comme Moko disait, c'est du bouche à oreille qui se fait à l'étranger. Ah, c'est ma sœur qui m'a parlé de votre restaurant et tout ça. C'est pas que les articles de presse, c'est vraiment une communauté qui s'est créée pour pour le restaurant.
Mais il reste quand même de la place pour une clientèle de passage. Mais que le charme de Mokonauts au début, c'était quand même ce côté un peu café et boulangerie de quartier.
Exactement, ouais. Et on essaie de le préserver. Donc on ne le dit pas tout le temps, mais on garde quand même des tables qui ne sont pas disponibles sur le site de réservation. Pour les gens, justement, les habitués. Il y a cette dame du quartier qui habite à deux pas, qui vient tous les matins, enfin pas tous les matins, mais peut-être une fois toutes les deux semaines, nous demander « Est-ce qu'il y a une petite table qui s'est libérée ? Je veux venir manger après la gym, tout ça. »
On trouve,
c'est des habitudes qu'on ne veut pas perdre. C'est une clientèle qu'on ne veut absolument pas perdre.
Et nous autres, on emploie souvent, en tant que journaliste, l'expression un peu cliché de culte, restaurant culte. Mais alors, s'il y a bien un établissement à Paris qui peut accepter évidemment cette expression, c'est le vôtre, Mokonauts. Il suffit de voir d'ailleurs l'effervescence qu'a suscité sur les réseaux sociaux, en France mais également à l'étranger, la parution de Mokonauts, votre livre chez Faidon que tant de fans attendaient, tout simplement pour percer les secrets de quelques recettes que vous allez nous faire déguster comme ça en avant-première sur le plateau. Restaurant culte, ça vous fait quoi, vous qui finalement avez laissé parler vos intuitions, un peu sans calcul, vous êtes à la tête d'un lieu transformiste, plutôt hybride, au départ coffee shop, avec les moyens du bord, et puis peu à peu, Omar, au passé culinaire et gastronomique, au pédigré tout à fait solide, a commencé à faire une cuisine salée, ambitieuse, et c'est ainsi que c'est devenu une véritable table gastronomique.
Bah c'est un lieu, disons, qui a connu une évolution assez rapide, dans le sens où, et ça on le dit dans le livre, on a créé Mokonauts, pas forcément pour faire un coffee shop, mais on voulait créer en fait un lieu qui soit quand même assez simple, où les gens peuvent venir et s'attabler pour manger un labné, boire un café ou manger un cookie et puis basta. Mais on savait que on voulait créer quand même un lieu de restauration. C'est ce que moi et Moko on sait faire. On a travaillé dans des très beaux restaurants et on voulait justement exprimer notre cuisine à travers Mokonauts.
Omar, d'origine libanaise, vous avez grandi dans une famille libanaise à Paris.
Ouais.
Moko, vous êtes d'origine japonaise.
Oui.
Vous vous êtes rencontrés à New York.
Oui.
Vous êtes tous les deux des reconvertis. Vous occupiez des postes très confortables avec des situations, des métiers très bien rémunérés. Hein. Vous étiez avocate, Moko.
Oui.
Vous avez carrément occupé un poste qui, moi, me fait rêver. Yankee Stadium, vous étiez coordinateur.
Moi, j'avais
Yankee
un
Stadium dans le Bronx.
Était...
On parle là d'une mecque du baseball.
C'était un métier qui était unique au monde, dans le sens où je travaillais donc pour la mairie de New York. Je faisais la liaison entre la mairie de New York et les New York Yankees. Parce qu'à l'époque, l'ancien stade des Yankees appartenait à la ville de New York, donc c'était une concession. Et donc, moi, je gérais tout ça. Moi, libano-français, ne connaissant rien au baseball, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont embauché, justement.
Vraiment rien de tout.
Il n'y a pas de règles. J'y ai pris goût après quelques années, quand même.
Après, sacré parcours en cuisine. Hein.
Ouais, exactement. Après, je savais que j'allais pas faire ça tout le reste de ma vie, mais la cuisine, c'est quelque chose qui m'avait toujours passionné, grâce à mes parents, mon père qui était un fin gourmet, et donc j'ai annoncé à Moko à 30 ans, ça y est, je me lance, je fais la cuisine.
Et Moko, de votre côté, la pâtisserie vous attirait, et notamment, on va venir justement à vos super cookies qui sont un peu le porte-étendard de Mokonauts. D'abord, la passion, vous avez un peu fantasmé la pâtisserie française.
Ouais, c'est grâce et à cause de ma mère. J'ai aussi grandi avec les parents très très gourmands, donc le repas familial c'était très important. Et ma mère, elle était passionnée par toutes les pâtisseries, toutes les cuisines, surtout le pâtisserie français. Donc à la fin, où j'ai arrivé, ça n'a rien à voir que ce que j'ai imaginé quand j'ai quitté mon boulot d'avocat. J'ai pensé de faire la pâtisserie française très jolie, très intricate. Je sais pas, c'est
très sophistiqué, avec des petites tuiles.
Je reviens à quelque chose, j'ai grandi, qui me donne beaucoup de confort.
Et j'espère que ça donne un confort aux autres. Je pense que c'était ça que, où je trouve mon plaisir de création.
Ben les cookies, c'est un peu ce qui vous a fait connaître. Vous avez dit, vous dites dans votre livre, de toute ma vie, je n'aurais jamais imaginé écrire sur les cookies. Ils m'ont permis de garder la tête haute au début pendant les moments difficiles. Mais ensuite, ma quête du parfait cookie a été l'une des plus longues et les plus frustrantes de ma vie, car je cherchais à retrouver un cookie de mon enfance au Japon.
Oui, on a... Du coup, ma mère, elle ne m'a pas vraiment fait des cookies, mais on a eu des cookies industriels qui traînent de temps en temps, parce qu'elle était vraiment contre de choses industrielles. Mais c'est, je me souviens, c'est de côté moelleux au milieu.
Un peu élastique.
Christian Exteria. Il s'appelle Country Marm. Je ne sais pas si ça existe, je peut-être.
Un cookie japonais.
Ouais, mais c'était vraiment... Ça ne vient pas de boulangerie ou de Japon qui fait de super gâteaux déjà, mais ça, c'était remballé. Acheté dans le supermarché. Donc j'ai toujours cette texture dans ma bouche que je voulais recréer. Et c'est pour ça que j'ai fait de Excel sheet de dingue.
Chers amis, je vous invite à mettre un coup de croc dans ce Choco Chunk Cookie.
C'est chunk parce que je coupe des chocolats.
Voilà, alors il y a plusieurs secrets, vous allez nous les révéler. Mais il y a notamment effectivement le chunk qui n'est pas un détail. Ça veut dire morceau ou gros éclat
exactement.
De chocolat. Donc ça n'a rien à voir avec les
pépites.
La pépite
qu'on appelle chip.
Oui. Voilà.
Ouais. Chip, c'est plus petit que
exactement.
Chunk.
Exactement. Donc, tout le monde me demandait, est-ce que vous avez des pépites de chocolat, cookies ou pépites de chocolat? C'est que non. Mais c'est de choco chunk.
Il faut des gros morceaux.
Je corrige. Oui, c'est très important, cette sensation dans la bouche.
Il fait la grimace, François.
Oh là là.
C'est vrai. Ouais, François.
Il fait toujours la grimace.
C'est addictif. François, c'est mon qui dit, oh là là.
Oh là là, je vais pleurer.
Ah non, mais l'uppercut, c'est prodigieux. Il y a la petite pointe de sel. Comment vous décririez ça, Justine?
Ben, en fait, je trouve dans ces cookies, ce qui est fou, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de relief, autant dans le volume, la texture, mais aussi dans les goûts. Et c'est vrai que dans l'assiette, il y en a d'autres, avec d'autres goûts. Il y en a un, j'ai l'impression qu'il y a du curry avec de la noix de coco. Enfin, en fait, on sort du sucre. Il y a vraiment quelque chose de cuisiné.
Oui, il y a cette pointe de sel. Le secret, alors, si on reste sur vraiment la recette basique de Choco Chunk, c'est-à-dire vraiment le cookie au chocolat, qui effectivement, comme le dit Justine, a des jolis bourrelets croustillants, et qui est plutôt tendre au milieu, il y a comme deuxième secret le fait aussi de faire reposer la pâte. Hein. Ça, c'est important.
Oui, en fait, la pâte doit hydrater. Il faut prendre toutes les hydrations, doit être uniforme. Donc, on a besoin minimum 24 heures. C'est vrai que ça se cuit. Si vous faites la pâte et cuit, c'est bon. Hein. Ça se mange, mais je pense que le meilleur résultat, en plus, la couleur change. Si vous cuisez tout de suite, et après, si vous faites la pâte deux jours après, c'est pas la même couleur. Vous voyez la différence?
Bien sûr. Et puis alors, on a appris un tour de main absolument formidable. Il faut préciser que ce livre, et notamment, il est préfacé par deux auteurs culinaires anglo-saxons que sont Dory Grispan, qui est une spécialiste américaine
du
de la pâtisserie,
surtout, hein,
du baking, absolument. Et David Leibovitz, on le salue, un critique gastronomique new-yorkais installé à Paris depuis plusieurs décennies. Et lui, ce David, vous a donné un conseil, un tour de main qui a littéralement changé votre vision du cookie.
Oui, tout à fait. En fait, il ne m'a pas donné le conseil personnellement. J'ai lu parce que j'étais un grand fan de lui, donc j'ai lu son blog tout le temps. Et une des choses qu'il m'a donné la réponse, que j'ai cherché tout le temps, c'était pour garder le côté moelleux au milieu. Donc, il a dit qu'il faut taper des cookies en sortant de four. C'est-à-dire que l'extérieur continue à cuire. Mais au milieu, ça s'arrête de cuire. Du coup, ça garde le côté un peu moelleux et extérieur, ça devient plus croustillant. Quand j'ai vu ça, c'est incroyable.
Mais comment on tape un cookie?
Mais vous êtes en train de bouillir?
Bah bon, donc là.
Vous êtes en train de nous dire que chaque cookie a sa petite tape sur l'épaule, enfin sur le ventre.
Exactement.
Sur la tête.
Avant qu'elle part, dans le monde, c'est mes petits enfants, ils partent dans le monde pour être mangés. Donc je vais donner la petite tape. Mais idéalement, c'est la petite spatule. Mais je pense, je trouve que c'est la meilleure manière, c'est deux doigts.
Et ça change. Ah, les deux doigts.
Je pense que c'est le meilleur. Mais je pense qu'il vaut mieux de ne pas vous brûler. Peut-être pour la cuillère, ou spatule, petite spatule. Tout ce que la forme un peu ressemble à deux doigts. Quoi.
Et ça change vraiment la cuisson du cookie.
Oui, tout à fait.
Précisons que vous faites une superbe collection de cookies qu'on peut acheter chez Moconuts. Des potrons minets, hein, dès le matin. Il y a notamment ce cookie qui vous représente bien parce qu'il est à la croisée de vos cultures, chers amis, Moko et Omar. C'est le cookie au tahiné et sésame noir. Le tahiné, C'est la fameuse crème de sésame d'origine, levantine. Oui. Mais le sésame est aussi un ingrédient majeur au Japon. Donc vous avez associé comme ça vos deux cultures pour faire un cookie qui a beaucoup de succès. Hein.
Oui, bah, je me dis bien que j'ai essayé de représenter les deux, mais je pense que c'est arrivé un peu naturellement. Je ne réfléchis pas trop de mélange de goût de cookies. C'est juste, ça arrive comme ça. C'est un peu comme la cuisine d'Oma. C'est des côtés un peu instantanés. Je regarde un ingrédient, je me dis, ah tiens, peut-être c'est ça et ça, ça va aller bien, on va essayer.
Ouais, l'appât.
Moko nous a sorti des idées de cookies qui sont assez extraordinaires. Donc il y a peu de recettes, enfin il y a des recettes dans le livre, il y en a 5 ou 6 je pense, mais il faut savoir que Moko a peut-être entre 100 et 120 recettes de cookies différents.
Mais alors,
avec des
parfois
goûts,
un peu bizarres.
Oui, un peu déjantés. Mais,
la bonne nouvelle, c'est qu'il y a enfin vos secrets qui ont été, maintes fois, beaucoup de gourmets ont tenté de les percer, et ça y est, c'est chez Faidon, Moko Nuts, avec parmi le répertoire de toutes vos recettes, ces exceptionnels cookies. Il y a au moins 4 ou 5 recettes. Hein.
Il y a, je pense, 6.
6
ouais. Mais c'est vrai que j'en ai genre 100, plus de 100.
Et si on donnait la parole à François Simon ?
On va déguster sur France Inter.
Si j'ai cru comprendre, mon cher François, nous allons parler aujourd'hui d'air. L'air se dégusterait donc, hein ?
En fait, non, François-Régis.
Ah bon ?
Ouais, parce qu'en fait, tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé d'air, j'ai bien senti qu'il y avait comme un trou. Je vous voyais venir avec vos rubans de mots gentils, du style « Pourrais-tu faire un lien tout de même avec Moko Nuts ?» Il y a par exemple l'émulsion de Tête de Homard, page 78, de leur livre, ou la Pavlovla de Moko, avec meringue et crème fouettée, page 208, pas vrai ?
Mais oui, c'est vrai que je vous ai un peu signalé que...
Bon, du coup, j'ai cherché page 78 et page 208 avant de réaliser que je n'avais pas le bouquin. Mais c'est alors que m'est revenu mon dernier repas au Moko Nuts.
Ah.
C'était le 22 mars 2016.
Ah.
Pas compliqué à se souvenir, le jour de mon anniversaire de mes 38 ans.
Ah.
Ouais. Et oui. Là oui, j'ai pas l'air, mais c'est comme ça. Et c'est curieux, la scène me revient avec une force incroyable. Troublante même, et ce d'autant plus que depuis, je ne suis jamais retourné. C'est vrai. Vous allez comprendre pourquoi. J'étais sagement assis, seul une nouvelle fois, me laissant fondre comme d'habitude dans le décor, pour mieux imprégner cette adresse qui venait d'ouvrir dans ma rue, la rue Saint-Bernard, à Paris, dans le 11e arrondissement, où j'ai vécu plus de 20 ans au numéro 15. Et au numéro 5, donc, nos deux amis ici présents de Moko Nuts. Je boulotais tranquillement ma volaille de ferme et sa purée de panais, lorsqu'un ouragan est entré dans le tout petit restaurant. Je connaissais par cœur ce grand escogriffe, volubile et sensationnel, imitateur génial d'Henri Gault, d'Alain Ducasse et Cyril Lignac, un fan abyssal des Beatles, c'était même un ami, Sébastien Demorand. Pour nos auditeurs, sachez que plus le temps passe, plus sa mémoire s'illumine. Il a inventé le terme bistronomie en 2005, vibrionnait partout à RTL, Europe 1, Fooding. Il a été aussi jury dans l'émission Masterchef. Et puis, soudainement, le 21 janvier 2020, à l'âge de 50 ans, il s'est envolé. Je le vois encore dans le coin à droite du restaurant, pliant sa grande silhouette sur les petites chaises. Je me souviens des tulipes blanches sur le comptoir. Il vous serra dans ses bras, Moko, et demanda illico de la courge japonaise, le kabocha, rôti avec une sauce tahini, vous vous souvenez ? La sauce avec des graines de sésame. Étant proche de l'invisibilité au bord de la disparition, Sébastien ne me remarque à point. Mais moi, je le voyais en pamoison, presque en lévitation. J'ai mieux compris alors sa façon de vivre, de savourer les instants, comme un exhausteur de vie, un bouffeur de pixels. J'ai compris ce qui faisait notre différence. Pour ma pomme, version Buster Keaton, née en Loire-Atlantique, passons. Et lui, en rablésien heureux, né à Salisbury, en Rhodésie, l'actuel Zimbabwe, fourmillant de neurones et de sensations dévorantes à Kabocha, lui aussi en solitaire.
Mais François, vous êtes dit bonjour quand même avec Sébastien.
Ouais, heureusement d'ailleurs. Je suis allé le saluer lorsque j'ai terminé mon repas. Il m'a dit combien il vous adorait, Moko et Omar, combien votre cuisine lui parlait. Aussi, ne m'en voulez pas, j'ai voulu garder intacte cette image de bonheur gourmand. Je n'ose plus y retourner, je n'ose plus retourner chez vous. J'ai dû sans doute voulu vous sanctuariser dans cette épiphanie bienheureuse, lumineuse. Et Mokonauts, c'est tout cela. Une adresse prise sur le vif.
Merci François Simon, séquence émotion, et merci de saluer la mémoire de Sébastien Demorand, grand critique gastronomique. On fait une bise aussi à Nicolas, évidemment, qui avait des rituels gourmands avec son frère. Sébastien Demorand, vous le connaissiez bien, Moko et Omar.
On connaissait très très bien, oui. Et on se souvient très bien de ce jour-là.
Ouais. Ouais. Moi aussi.
Ah oui,
ouais.
Vous vous souvenez même de ce qu'a mangé François?
Bien sûr.
Oui. C'est après coup que Sébastien nous a dit en fait, ce monsieur, c'est François Simon.
Ah, ça, je ne savais pas qu'il vous avait carrément dénoncé.
Ouais, alors, c'est lamentable.
Sébastien, ça va
se faire. C'est, un c'est peu à plus quel tard. Point on était amis.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il a mangé?
Merci, cher François Simon. Vous restez avec nous, évidemment, pour déguster du Mokonauts pour la deuxième fois, puisque vous allez dégainer, Omar, un autre emblème gourmand, un autre emblème comestible, un porte-étendard de Mokonauts. C'est ce labné qui ne vous a pas quitté depuis les tout débuts du restaurant, Omar.
Alors, le labné, effectivement, c'est la recette qu'on a au restaurant tous les jours depuis l'ouverture du restaurant. Après, tout le reste change, mais s'il y a une chose qui ne change pas du tout, c'est le labné. Après, on peut changer la garniture, mais la base reste exactement la même.
Alors, définition du labné, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, on peut parler d'une spécialité fromagère d'origine levantine, qui est très présente ouais. notamment dans la cuisine libanaise.
Hein. Oui, donc c'est à la base vraiment un yaourt qui est légèrement salé, ensuite égoutté la nuit. Ça, c'est la façon classique de le faire. Il faut le laisser dehors pour qu'il fermente un petit peu, donc il gagne un peu en acidité. Et après, on le sert donc avec de l'huile d'olive, du za'atar, à manger avec du pain, n'importe quel pain. Ça peut être des graissins, ça peut être...
Et vous y ajoutez une petite garniture végétale. Alors, ça peut être des piments de padrone. Nous, on a eu la chance de l'avoir...
Des brocolettis tout juste saisis, c'était vraiment ouais. délicieux, ça.
Des brocolettis tout juste sautés à la poêle.
Ça, c'est vraiment ma touche à moi. Ça, on ne fait pas ça au Liban, généralement, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai apporté moi-même.
Et alors, en lisant votre livre chez Faydon, puisqu'on est tous intrigués par la volupté, le côté aérien, tiens, François Simon, vous pourrez quand même nous faire une chronique sur l'air, un de ces quatre. Hein. Le côté très émulsionnaire en bouche, mais en même temps avec cette acidité lactique très agréable, eh bien, c'est presque un mythe qui s'effondre en lisant votre livre chez Faydon, puisque oui. votre labné est en fait un faux labné. On se rend même compte que vous êtes un petit tricheur, Omar.
Je triche, effectivement. J'avoue, on a au départ pas eu cette intention, dans le sens où le premier labné qu'on a fait, je pense, au restaurant, on avait décidé de faire notre propre yaourt, ce qui prend 24 heures. Ensuite, de l'égoutter nous-mêmes, pour au final commencer avec 5 litres de lait et finir avec 200 grammes de labné. Et beaucoup de petits laits. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on va faire ça tous les jours? Peut-être pas. Donc, on a tenté de faire en fait le labné d'une autre manière, c'est-à-dire de prendre un bon yaourt grec, de l'égoutter légèrement au besoin, et là c'est aussi ma touche personnelle, de le foisonner avec de l'huile d'olive pour lui apporter ce côté crémeux et onctueux.
Et pas mal d'huile d'olive d'ailleurs. Hein.
Il y en a beaucoup.
Et il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. C'est vraiment presque. J'aime des fois dire que c'est une émulsion presque de yaourt et d'huile d'olive.
Il y a de l'huile d'olive et effectivement, il faut 500 grammes de yaourt à la grecque et 5 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra, voire parfois un petit peu plus.
Ouais.
On émulsionne pour lui donner une texture très veloutée. Et puis ce qui est important aussi, évidemment, un peu de sel, etc., il y a un assaisonnement.
Absolument.
Il y a évidemment ce mélange d'épices fondamentales qui doit être de qualité et qui relève le labné.
C'est le za'atar, voilà. Et le za'atar à la base, c'est du thym, du sumac et du sésame avec une pointe de sel. Il faut un très bon za'atar pour avoir un très bon labné.
Vous le trouvez où, votre za'atar?
Ça dépend.
Ah, vous n'avez pas de za'atar. Ça sent surtout le mec qui ne veut pas du tout donner ses fournisseurs, en fait.
Non, mais parce qu'on en avait des très bons, et après c'est devenu un peu plus compliqué de ramener des choses du Moyen-Orient, pour des raisons qu'on connaît, et bon, là, je mets ma main sur ce que je peux trouver de mieux à Paris.
Et donc
Et donc, ça dépend vraiment. Ouais. Des fois, c'est l'épicier oriental à côté.
Ouais. Ah, okay.
Oui, mais c'est une marque.
C'est de Zata de base.
Voilà. Le Saint-Bernard.
Oui.
Pas le Saint-Bernard, il n'y a pas de l'épicerie. Vous connaissiez bien,
ça commence à venir.
François.
Allez,
c'est ça. Vous avez eu le temps de le goûter ou pas, François?
Ok. Là?
Oui,
vous avez là, j'adore. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on retrouve ce que j'aime tant, moi, dans la cuisine libanaise et chez les Libanais, c'est cette bienveillance qu'on retrouve à table. C'est l'un des pays au monde où je trouve qu'on est respecté chacun dans sa façon de manger. Ceux qui n'ont pas envie de bouffer, ils ont la paix. Personne ne les repère. Alors qu'en France, c'est horrible.
Et ceux qui ont envie de
manger comme des ogres, ils peuvent. Et c'est ça qui est formidable. Ouais. Il y a une, c'est sans doute, ben, c'est les plus belles cuisines du monde, la cuisine perse, tout ça.
Ouais.
On y est, au cœur.
Dans un instant, une recette extraordinaire de homard, une recette originaire de New York et un cake dont vous allez vous souvenir, signé Moko. On est bien sur France Inter. Paris Amour, extrait d'un album superbe de Kerenan que j'écoute en boucle. Et salutations d'ailleurs à Kerenan qui est déjà intervenue dans cette émission. C'est une passionnée de pain au levain. Omar et Moko, ce sont nos invités du jour. Et ils forment le couple, le duo, au fourneau de Mokonuts, l'une des tables les plus sympathiques et les plus délicieuses de la capitale. Leur livre de recettes, tant attendu, vient de paraître aux éditions Faïdon. C'est l'heure d'Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Il y avait dans le frigo de ma grand-mère des petites coupelles avec des restes de salade et de chouchouka. Au cas où quelqu'un frapperait à la porte, comme au temps de Bogari, où oncle, tante et cousin passaient la voir à l'improviste. Mais le temps en France n'était pas le même qu'en Algérie. La porte s'ouvrait rarement dans son dernier appartement parisien. Lorsque je venais la voir après le lycée, je la trouvais assise sur le fauteuil du salon, en train de coudre ou de broder. La cuisine était rangée, on entendait le tic-tac du réveil en bakélite. Elle tirait les longs fils de ses rêves d'amour vers le haut, d'un geste au ralenti, son dé argenté à l'index de sa main gauche, le regard ailleurs. Celle qui sortait du lycée pour aller voir sa grand-mère s'appelle Marie-Claude Ekiba Aigri. Elle est psychologue clinicienne, psychanalyste et autrice. Sa grand-mère, dont il est question, sa grand-mère maternelle, s'appelait Bellara, ou Mémé de Bogari, du nom de ce village algérien des steppes du Cersou, au seuil du désert. Bellara, Cuisine et transmission de nos grands-mères juives d'Algérie, c'est le titre de ce livre que signent donc Marie-Claude Ekiba Aigri pour les textes et René Ekiba Wiseman, sa sœur aînée, pour les recettes aux éditions Kerebus. C'est le récit du côté des femmes de cette famille, de la vie d'avant 1962, de la vie avant l'exil, avant aussi la disparition, l'assassinat du père de Marie-Claude et René, tout juste évoqué dans ce livre-ci, mais dont Marie-Claude Ekiba Aigri a fait en 2021 un autre livre sous le titre de « L'enfant qui se taisait » chez Gallimard. C'est le récit des traditions et des fêtes juives, de la manière dont le goût se transmet, du matriarcat au sommet duquel régnait Bellara et les recettes de son carnet rouge à spirale que les sœurs Ekiba ont complété en enquêtant patiemment. C'est un livre sur le secret et le silence, sur la cuisine qui remplace la parole. La cuisine de l'exil est une rampe de cordes pour s'orienter dans un monde nouveau sans casser le fil de l'ancien. Elle fut longtemps la seule fenêtre ouverte sur l'Algérie, abritée à l'intérieur des maisons. Les mets prenaient la place des mots qui se taisaient, prolongeant les jours en métropole. Et puis, c'est un formidable livre de recettes aussi, comme une œuvre de mémoire et la preuve éclatante que la vie a été belle et qu'elle l'est toujours, parfois. La vraie vie que les photos de Rebecca Genet, sensible, sans artifice, presque documentaire, je vous montre François-Régis, capture avec sincérité, cuisine de Shabbat, plat traditionnel, magnifique page consacrée aux boulettes, un festival de recettes qui compose un hommage aux femmes de la famille. Alors moi je garde et je vais faire les coquelettes de Mamie Couscous, qui sont des boulettes de viande panées à la semoule, les boulettes petits pois et langue d'oiseau de Tata Paulette, les mandegas qui sont des petites boulettes à l'ail, mie de pain, rassel hanout, coriandre de Mamie Yvette, et puis les douceurs. Les flans, les beignets turcs, les grenades à la fleur d'oranger, les kleinels de Vivi, les macroudes et, tiens tiens Moko, les mantecaos.
Ah,
il y en a aussi dans votre livre.
Ça, hein.
C'est Moko Tecaos chez nous.
Ouais, ouais. C'est ça.
Oui, vous l'avez rebaptisé, mais on c'est parle ça, évidemment c'est... de ce biscuit d'origine maghrébine.
Exactement.
Qui a un peu un effet très sableux.
C'est, sableux,
en
c'est,
c'est délicieux, avec un peu de cannelle.
Exactement.
Maghrébin, moi, mais pas d'origine andalouse.
Absolument.
Il y en a une recette dans ce livre-ci, dans Bellara. Nous souhaitions faire revivre un goût à aucun autre pareil, déposer la trace avant qu'elle ne s'efface, pour que les futures générations n'oublient pas le visage de nos mères ni de nos grands-mères, la couleur du sable du Sahara, ni de la semoule dorée. Il n'y a pas eu de voyage de mémoire en Algérie sur les traces de nos aïeux, il reste la cuisine pour nous faire voyager. Et qu'il est émouvant ce voyage au fil de ces traditions culinaires juives, de ces saveurs berbères, arabes, espagnoles, que nous offrent aujourd'hui Marie-Claude et René, de la façon la plus intime et inoubliable, au fil des pages de leur petit carnet rouge réinventé.
Si vous enlevez carnet de famille, superbe.
Si vous enlevez la couverture du livre, la jaquette... Si vous enlevez la jaquette, vous voyez, il y a petit carnet rouge.
Qui fait un peu, effectivement, carnet de famille.
Et un très joli travail d'édition de Kerebus.
Recette très, très émouvante. Cuisine et transmission de nos grands-mères juives d'Algérie. Il y a plein de recettes, là, je viens de feuilleter, que j'ai envie de...
Les boulettes.
Que j'ai envie de m'approprier, les boulettes. Merci beaucoup pour ce coup de cœur, chère Elvira. Omar, le cuisinier de Mokonuts. J'aime bien votre façon de raconter votre activité de cuisinier chez Mokonuts. Vous dites, vous aimez dire que Mokonuts est le seul restaurant sans étoile dans lequel vous avez travaillé, c'est vrai ?
C'est vrai, c'est vrai. J'ai été formé, je suis passé par pas mal de maisons et toutes les maisons où j'ai travaillé, il y avait, je pense qu'on avait au moins une étoile.
Mais voilà. Oui, ouais. À Londres, à New York, à Paris... Clam Chowder, c'est là aussi un plat qui vous accompagne depuis Londres, même si ce plat a des racines new-yorkaises.
Ouais, c'est un plat donc que j'ai appris à faire à Londres avec un chef que j'admire beaucoup, Björn van der Horst, avec qui j'ai travaillé pendant presque un an.
C'était à la Noisette ?
C'était à la Noisette, oui, qui a fermé ses portes depuis bien longtemps.
Un restaurant qui était très connu au centre de Londres.
Exactement, oui. Et ce que j'aimais beaucoup donc avec ce chef, c'est qu'il reprenait beaucoup de classiques français. On faisait des choses qu'on ne voit plus au restaurant de nos jours, comme des bourrites de lotte, des choses comme ça. C'est lui qui m'a appris à faire le cassoulet, par exemple. Donc même dans un restaurant étoilé français à Londres, on servait du cassoulet avec du canard confit. Et la clam chowder, donc lui qui avait vécu longtemps à New York, c'était un de ses plats emblématiques et j'ai appris le faire avec lui.
On parle donc d'une soupe très veloutée, marine, hein, puisqu'il y a les clams qui sont... là, vous avez utilisé des palourdes ?
Des palourdes, ouais. Ouais.
Et qu'est-ce que vous en dites ? Il y a cette acidité ?
Oui, super onctueux. Et effectivement, c'est comme si la texture était un support à toute cette profondeur. Et puis, je trouve qu'il y a aussi la petite touche d'huile d'olive, très fruitée.
Ah, toujours.
En fait, ça fait le lien avec le lamné. Enfin, il y a quelque chose qu'on retrouve qui est très agréable.
Il y a deux choses qu'on retrouve toujours chez Mokonos dans chaque plat. C'est la petite touche d'huile d'olive et je dirais à 80% du temps du sumac. Il y a toujours du sumac. Le sumac, c'est un peu mon poivre à moi, en fait.
Et qui a ces notes comme ça, très acidulées. Exactement. Et agréables, une petite poudre de couleur grenat. Hein. Clam chowder, comment on s'y prend en quelques étapes ?
Donc, en gros, c'est un peu ma clam chowder revisitée à ma façon, dans le sens où la clam chowder, c'est en fait une soupe, un velouté de pommes de terre et beaucoup d'oignons. Un peu comme une vichyssoise auquel je vais rajouter justement les clams, donc les coquillages et le jus de coquillage dedans. Donc c'est pour ça qu'on retrouve donc le côté velouté grâce à la pomme de terre et aussi le goût quand même assez doux prononcé qui vient un peu du coquillage mais surtout de l'oignon.
Extraordinaire, c'est très confortable comme tout votre répertoire, Omar. François.
Ce que j'aime bien moi c'est l'esthétique de ce plat, c'est les plats d'antan. Où on a l'impression que c'est une cité engloutie. Pour nos auditeurs, on voit juste une nappe quoi, qui est un peu crémeuse. Et tout le plat, tout le mystère
et
est à l'intérieur.
Et la surprise au fond. Ouais.
C'est une autre époque.
Exact.
Et c'est un même plaisir.
Et comment cette clam chowder va s'associer à notre verre ?
On va déguster sur France Inter.
Chère Justine Knapp, vous nous parlez d'une autre référence, un couple également, mais côté vin.
Dans votre livre, Moko et Omar, vous écrivez que Mokonos, ce n'est pas un restaurant chic, qu'il est plutôt brut même. Et la semaine dernière, je me suis rendue sur un domaine en Savoie. Et la deuxième ou la troisième phrase du vigneron était « On ne fait pas de grand vin avec les mains levées devant soi pour freiner. » Pas de grand vin, du moins, ce n'est pas vendu sur l'emballage. Donc ce domaine, il est né presque en même temps que le restaurant. Donc vous ouvriez vos portes au premier client au singulier, hein, Pablo, le 15 décembre 2015. Et deux ans plus tard, les premiers vins de ce domaine montaient à Paris pour être goûtés. Et je vous parle de Camille et Mathieu Apfel, qui sont installés à Saint-Baldoff. Donc c'est face aux pentes du massif des Bauges, juste aux portes de Chambéry.
Nous sommes dans le département de la Savoie, et oui.
Et donc la semaine dernière, c'était la fin des vendanges chez eux. Le pic d'adrénaline de l'année, un grand coup de feu à la mesure d'un an de mise en place. Et ce jeu de l'adrénaline, c'est ce qui pousse Camille et Mathieu Apfel à y retourner chaque année. Et ils doublent même la mise avec des vinifications risquées. Pur raisin, pure adrénaline. Et nous, qu'est-ce qui rend un lieu, un vin si charmant qu'on y retournerait-je, comme François Simon ? J'admire une forme de constance, toujours bon. Mais faire partie des habitués, c'est un élan du corps difficile à décortiquer. Moko, vous dites que vous cherchez à proposer des desserts immédiatement accessibles. Et Camille et Mathieu Apfel ont parlé de quelque chose comme ça, d'un vin qui doit satisfaire comme un grand verre d'eau quand on a soif. Comme si c'était simple, comme si c'était tombé dans le verre ou dans l'assiette en quelques gestes, des gestes qu'il a fallu en réalité au moins 20 ans pour concentrer. Vous racontez, Omar, ce dîner à l'Arpège chez Alain Passard, qui a amorcé le fil rouge de votre cuisine.
Ouais.
Less is more, inutile d'en rajouter. Et il y a de ça dans les vins de Camille Mathieu Apfel. 4 cuvées, pas plus. On peut goûter toute la gamme comme on écouterait un album. Des vins dépouillés, fluides et qui tous appuient sur la fin. Ils marquent comme une trace dans la neige. Rouge et blanc se rejoignent. Le rouge qui est principalement à partir de mondeuses, hyper savoureux et léger. Et les blancs, jacquard et altesse, qui nous laissent avec un effet presque tannique, un grain minéral. Alors tous les vins sont élevés un an, donc c'est plutôt long. Les blancs sur leur lit, les levures mortes. Et donc ça veut dire qu'ils travaillent avec leur matière au contact du solide. C'est l'extraction des vins blancs. Et ça permet à la jacquard si légère d'atteindre cette consistance, cette complexité. Et ça m'a fait penser, en lisant le livre, à votre soupe froide de tomates. Donc les tomates écrasées qui marinent une nuit avec leur assaisonnement, avec les herbes, avant d'être pressées. Un geste simple, mais obtenu par une longue décantation du entreau.
Là encore, on voulait vous la demander, hein, cette soupe à la tomate froide. Malheureusement, bon, c'est un peu moins la saison de la tomate, mais c'est un plat signature de chez Mokonauts.
Ouais, ça, on le fait assez souvent. Et c'est un plat qui est un peu venu comme ça par accident, dans le sens où en fait, je préparais mes tomates la veille. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire une infusion à froid. On va mettre les herbes et voir ce que ça donne le lendemain. Le lendemain, je sors, je goûte, c'est incroyable. Et je me pose la question, est-ce que je mixe ou je mixe pas ? Non, je mixe pas, je passe tout au chinois et j'ai une soupe extraordinaire.
D'une intensité, umami, on l'emploie à toutes les sauces, mais alors s'il y a bien un plat qui est umami chez vous, c'est effectivement ce velouté de tomate. Quelle cuvée des Apfel dans nos verres, Justine ?
Alors, le cœur du domaine, c'est la Jacquère avant la tempête, qui est un vin comme un roc posé là. Et on a regoûté d'ailleurs au domaine le premier millésime, donc 2018. Et c'est un vin, c'est incroyable à voir vieillir. Il y a une énergie intacte, le vin se déploie. Et pour nous, dans nos verres aujourd'hui, j'ai apporté une cuvée que l'on croise moins, qui s'appelle Soleillane 2023, cépage Altesse, qui a poussé un peu plus loin, à la limite du Buget. Une cuvée plus douce d'approche, mais toujours avec ce final percutant qu'on sent revenir en courant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, moi, j'adore. Il y a une droiture, des notes salines, c'est salivant en fin de bouche, c'est prodigieux.
Et donc dans cette gamme, il y a une Jacquère qui est à 15,50, tous les autres vins sont à 19,50. Et une précision, c'est qu'on parle des délicieux 2023. Donc c'est ceux que vous trouverez en ce moment chez les cavistes avant l'arrivée du prochain millésime cet automne. Et puis il y a la liste des lieux où on peut trouver ce vin en France.
Mais est-ce que Camille et Mathieu Apfel sont sur la carte des vins de Mokonauts ?
Non, mais ils devraient l'être.
Parce que vous avez par ailleurs de très jolis vins d'auteur, des cuvées plutôt naturelles. Hein,
oui,
faut qu'on discute après.
qui va de pair avec votre cuisine. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Justine, pour ce bel éclairage d'un couple de vignerons qui effectivement fait beaucoup penser au destin culinaire et au destin de vie de Moko et Omar. On finit. Il nous reste 1:30 pour évoquer le bouquet final de cette émission, le Alva Cake, à condition d'avoir une définition de Alva, à moins que ce soit Omar qui donne la définition de Alva. Là encore, ça montre vos métissages culinaires à tous les deux.
Bah, c'était un peu inspiré à l'époque, vous connaissez tous Monsieur Ottolenghi, qui était de icon de
l'auteur israélo-britannique.
Oui, exactement. Il a aussi parlé de halva dans le gâteau, donc j'étais un peu inspirée, mais c'est ma manière de créer un gâteau. C'est aussi qui m'a ramené plein d'amitiés, notamment de Dory Greenspan, qui a écrit à préface pour notre livre. Ce gâteau-là a ramené Dory à Mokonauts dans la première semaine d'ouverture. Donc, elle a vu le gâteau de l'autre côté de la rue, la petite rue de rue Saint-Bernard. Je ne sais pas comment, elle a trouvé ça sur notre comptoir. Et comme ça, elle est rentrée pour nous poser de questions.
C'est dingue, elle vient.
C'est dingue. C'est vrai que c'est à la fois moelleux comme un cake, dense. Il y a des noix, il y a la ralva avec ce côté un peu...
Oui, c'est les da pécon, noix de pécon. Et les gâteaux même, il n'y a pas beaucoup de sucre en fait.
C'est vrai qu'il y a le goût de cette confiserie méditerranéenne à base de graines de sésame et de sucre.
Que vous rappeliez ce qu'est la ralva.
Mais fromage à gâteau.
Donc la ralva, c'est une pâte de sésame qui est sucrée en fait.
Ouais.
Mais alors, quel régal, franchement, c'est délicieux. C'est une recette à retrouver, là encore, dans votre livre de recettes auquel on promet un immense succès. Il y a tant de gourmets à Paris, en région, dans le monde entier, qui sont curieux de Mokonauts. D'ailleurs, il y a une édition anglaise. Hein,
c'est ça.
Pour tous vos fans outre-Manche, aux États-Unis, quel destin que celui de Mokonauts. On aurait aimé vous garder bien plus, mais vous avez vu comme ça passe vite, malheureusement.
Ouais,
c'est vrai.
Vite. Merci de nous avoir reçus.
Mokonauts chez Faïdon, avec les très belles photos signées Michael Bandassac. Merci beaucoup, Omar. Merci beaucoup, Moko, d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, nous serons en direct et en public depuis Uzès, où se déroule la 3e édition de Saveurs et Savoirs, un festival que j'ai cofondé et qui va démarrer ce jeudi 9 octobre à 17h30 avec une rencontre exceptionnelle avec la pâtissière Nina Métayer que je recevrai sur la scène de l'Ombrière. Et vous aurez la chance de retrouver pendant plusieurs jours de nombreux invités dans des rencontres et des conférences. Jérôme Gagnès, Loïc Bienassis, Suzy Palatin ou encore Elvira Masson qui va présenter son tout nouveau livre, je l'ai là, sorti il y a deux jours, vendredi.
C'est ça. Recette pour un, cuisiner pour soi, aux éditions du Seuil.
Oui, des
ou comment mettre de la joie et du soin dans son assiette quand on est seul chez soi.
Et on vous retrouvera quand à Uzès ?
Vendredi 10 à 14h au Petit Amphi de la librairie de la Place aux Herbes.
On a hâte de faire une émission justement sur la cuisine en solo. François Simon en sera et je vous imposerai une chronique sur la cuisine en solitaire ou manger en solitaire par exemple,
oui,
François.
Des vrais plaisirs solitaires, oui, ça en fait partie.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.